Alors, moi, je me suis intéressé, comme vous pouvez le voir, d'après le titre de ma présentation, aux religions dans les récits, aux références aux religions dans les récits. Alors, je redis quelque chose qu'on a dit en février, lors de la réunion du groupe de recherche, c'est que, déjà, il n'y en a pas beaucoup, en fait, des récits qui font référence à la religion. Alors, pas beaucoup, ça dépend ce qu'on entend aussi par religion. Parce que si on prend, par exemple, toutes les occurrences des mots église, cathédrale, etc., ou baptême de Clovis, on peut arriver à 200 récits. Mais on se rend compte que, par exemple, justement, j'ai noté la phrase de tout à l'heure que Christelle avait relevée dans les récits. Ah, merci, oui. Patrimoniaux, faisant référence au patrimoine, etc., il y avait un récit qui disait « Plusieurs monuments sont connus en France, comme la Tour Eiffel, Notre-Dame et les cathédrales et les églises. » Bon, alors ça, c'est bien un récit qui fait référence à des éléments religieux, mais en fait, non. C'est-à-dire, il y a le terme « église », etc., mais ça, c'est pas un récit que je prends en compte, moi, là, dans la présentation qui va suivre. Après, dans un second temps, je vais intégrer ces récits-là qui sont donc ont des termes d'objets religieux, mais qui ne font pas vraiment référence à la religion, mais justement plutôt à l'architecture, au patrimoine, etc. Donc là, dans ce qui va suivre, en fait, je vais parler de à peu près une centaine de récits, ceux qui vraiment font référence à la religion de façon tout à fait claire. Et puis ensuite, j'élargirai. Aussi, je ne retiens pas dans ce qui va suivre l'île de la Réunion, parce que c'est trop compliqué pour l'instant. Je préfère rester sur la métropole et puis ensuite intégrer la Réunion. Mais les récits réunionnais sont très spéciaux du point de vue de la religion. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je préfère ne pas compliquer les choses dès le départ. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, là, depuis février, pour ce colloque, c'est des liens entre le contenu des récits et certaines variables que l'on a à disposition. En particulier, je me suis demandé, évidemment, si les élèves d'établissements publics produisent des récits différents des récits produits par les élèves de l'enseignement privé. Pareil pour les sources, je me suis demandé si les récits basés sur des sources scolaires cours ou manuels, sont différents des récits basés sur des sources non scolaires comme les discussions avec la famille ou la télévision. Je me suis demandé également si les récits corses sont différents des récits continentaux, en quoi sont-ils différents et pourquoi, ce qui est une question difficile. Également, je me suis demandé est-ce que ceux qui parlent une langue autre que le français à la maison ou qui sont nés dans un pays étranger à la France produisent des récits différents de ceux qui sont produits par les élèves nés en France et qui ont pour langue maternelle le français, etc., etc. Est-ce que les ruraux disent autre chose que les urbains également? Et est-ce que les filles disent autre chose que les garçons? Donc voilà, j'ai isolé les variables publiques-privées, sources scolaires, sources non scolaires, académie corse, langue parlée à la maison, lieu de naissance, établissement rural ou urbain, et puis féminin-masculin. Alors, faudra prendre d'autres variables en compte, évidemment, comme, par exemple, le type de lycée professionnel, lycée général, le niveau scolaire, etc. Pour l'instant, j'ai pas fait ça. Alors, ensuite, voilà, ces variables, je les ai mises en relation avec les contenus des récits. Alors, maintenant, je vais parler du contenu des récits. Donc, d'abord, je vais simplement vous donner les catégories que j'ai construites, en fait, hein, les petites boîtes, en fait, dans lesquelles je mets les récits, hein, je les catégorise. Et puis ensuite, on verra la partie plus quantitative. Alors, dans les récits faisant référence aux religieux, on a d'abord des récits qui soulignent l'apport historique du christianisme, comme un récit qui dit « La France est une vieille civilisation chrétienne avec beaucoup de dates et de faits importants et beaucoup de souverains ». Donc là, je souligne le terme « vieille civilisation », hein, pour souligner également que là, il s'agit de l'apport historique du christianisme qui est relevé dans ce récit. Deuxième exemple, les rois s'étant convertis à la religion chrétienne apportèrent au pays cette volonté de prier ensemble le même Dieu. Autre élément de notre patrimoine historique, donc il y a également cette dimension historique là qui est présente. Ensuite, un types de récits tout à fait différents, les récits anticléricaux. Alors, anticléricaux dans un sens large, hein, simplement des récits qui insistent sur le fait que la religion, parfois, bah, c'est, enfin, les institutions religieuses, c'est parfois négatif, hein, ça peut retarder le progrès, etc. Donc, par exemple, le Moyen-Âge arrive avec ses cathédrales, la prise du pouvoir par l'Église et ses croisades sanglantes qui ont retardé le progrès de l'Europe de dizaines d'années. Ou alors, après cela, il y eut le Moyen-Âge, je n'aime pas cette époque, c'est une sorte de rabâchage incessant de rois qui se succèdent, de clercs qui volent la population pour Dieu. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas de problème, on ressent bien le côté anticlérical. Ensuite, des récits soulignant la présence de la religion aujourd'hui, donc c'est un type de récit qui se distingue du premier, hein, l'apport historique du christianisme. Ici, on a la présence de la religion aujourd'hui, donc la perspective historique est moins présente. Alors, par exemple, un élève qui dit « un pays riche qui s'est bien développé, un pays dans l'Europe qui s'accroît avec beaucoup d'émigrants, un pays très chrétien ». Donc là, j'interprète, c'est pas évident, mais j'interprète ce récit comme mentionnant la religion au présent. Ou alors, le deuxième récit, c'est plus clair, la religion est mentionnée au présent, la France a une grande diversité de religions ou de couleurs de peau. Ensuite, des récits soulignant l'apport religieux du baptême de Clovis, par exemple, Clovis Ier qui offrit à la France la chrétienté, donc là, le terme « offrir », le verbe « offrir », souligne cet apport religieux. Hein. Alors, ce type de récit est très rare, en fait. Le plus souvent, le baptême de Clovis, c'est plutôt interprété par les élèves comme un événement politique, et pas un événement de développement d'une religion, du développement d'une culture chrétienne. Ensuite, des récits qui décrivent la religion comme un phénomène appartenant au passé, à une époque révolue. Donc, par exemple, donc, là, il s'agit de récits qui suggèrent que la religion, c'est quelque chose qui est propre à une époque passée, que maintenant, qui suggère que c'est surtout à l'époque que ça existait. Aujourd'hui, ça souligne l'aspect passé de la religion. Donc, par exemple, pour moi, l'histoire de France n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Certes, il y a des moments importants bien connus, comme les religions Louis XIV. Ce dont je trouve le plus important à dire, c'est le développement de la France depuis des dizaines d'années. Donc là, il me semble que l'élève situe les religions dans un passé assez lointain. Et puis, deuxième exemple, de nombreuses guerres avec différents rois, différents règnes. Première guerre, deuxième guerre mondiale, puis aussi les famines, la peste, les religions, les émigrations. Mais moi, dans tout cela, ce qui m'a le plus marqué, c'est Hitler. Donc là, pareil, les religions semblent être interprétées comme appartenant au passé. Puis d'ailleurs, elles sont mises à côté de la peste. C'est ce qui avait fait rire pas mal le groupe de recherche en février, je me souviens. Ensuite, les récits mettant plus ou moins en équivalence religion et clergé. Alors, là, dans le premier récit, on a tout à fait un amalgame, en fait, entre religion et clergé. Quand il y a eu les rois, les personnes ont été divisées en trois. Il y avait les rois, les personnes qui travaillaient dans les champs et les chrétiens. Donc, évidemment, là, l'élève pensait sûrement au clergé. Mais voilà, il y a un amalgame et il dit les chrétiens. Donc, il semble faire une confusion. Après, on ne sait pas si c'est juste, évidemment, une étourderie ou vraiment une confusion. Et puis, deuxième exemple, moins évident, mais quand même, je l'ai mis dans cette catégorie. Après, c'est critiquable, hein. Forcément, là, c'est affaire d'interprétation du chercheur. Mais bon, donc il faudra peut-être que remettre à plat tout ça collectivement. Mais ce deuxième récit, là, à mon avis aussi, met un peu en équivalence quand même religion et clergé. Puis, au XVIIIe siècle, nous sommes au siècle des Lumières, les philosophes contestent le pouvoir de la religion du régime en place. Je trouve qu'il y a quand même une association très forte entre régime et religion. Les récits pro-chrétiens, bon, facile, la franc-maçonnerie continue à détruire la France qui jadis était un beau pays catholique. Les croisades donnent une vraie valeur au christianisme, c'est moins évident, mais je considère quand même que voilà, les croisades, elles sont quand même vues comme un événement positif, comme quelque chose qui permet de diffuser le christianisme, et voilà, bon, c'est, je dirais que c'est quand même pro-chrétien, ça, ce genre de récit. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, des récits insistant sur l'intolérance politico-religieuse. Il y avait des rois qui étaient très sévères aussi pour la religion. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu, on leur coupait la tête, on les brûlait. Bon, c'est intolérant, n'est-ce pas ? Et puis, Louis XIV, dit le roi Soleil, a détruit l'édit de Nantes et voulu exterminer tous les protestants. Donc là, je donne que des exemples. Hein. Il y en a plus que ça, hein, des types de récits, des récits de ce type-là. Mais comme je l'ai dit, la partie quantitative, on va y passer tout de suite après. Et puis, les récits parlant de la religion exclusivement au prisme de la laïcité. Donc voilà, ce sont des récits, j'ai cherché le terme religion et puis je me suis rendu compte qu'en fait, dans certains types de récits, c'est pas vraiment de religion dont il s'agit, mais plutôt de laïcité ou de liberté, donc laïcité au sens large. Par exemple, aujourd'hui en France, il n'y a pas de religion, il n'y a pas, j'ai fait une faute de frappe je crois, il n'y a pas de religion d'opinion imposée, on fait comme on veut. On peut croire en n'importe quel dieu, donc là il s'agit plutôt de laïcité en fait, même s'il y a le mot dieu, etc. Et puis la France est un pays laïque, hein, qui est un élève qui dit ça tout au début du récit, donc qui considère vraiment la laïcité comme étant primordiale. Et puis les récits parlant de la religion exclusivement au prisme du pouvoir, donc par exemple le pouvoir des rois qui se disent représentés par Dieu. Ensuite, les récits décrivant le baptême de Clovis comme un acte opportuniste ou un acte de pouvoir. Donc ça, ce sont des récits qui se distinguent, hein, des récits qui mettent l'accent sur l'aspect religieux du baptême de Clovis. Là, on n'a pas l'aspect religieux. « Je suis Clovis, roi des Francs, nous avons vaincu les Huns ainsi qu'Attila leur chef. Je me suis converti en chrétien car j'étais orthodoxe et une loi l'interdisait. » Donc là, il a été un peu obligé de se convertir, Clovis, hein, c'est pas du tout, il a pas offert la chrétienté, c'est pas vraiment intentionnel apparemment, hein, cette conversion, hein, il était un peu forcé de le faire. Bon, voilà, je reste sur cet exemple-là. Puis ensuite, voilà, je vous propose cette partie quantitative. Alors, le problème qui se pose, c'est que il y a pas beaucoup de récits, surtout qu'il y a beaucoup de catégories. Donc du coup, comme il y a pas beaucoup de récits et beaucoup de catégories, mais dans chaque catégorie, on a vraiment peu de récits. Mais ce que je propose de faire, c'est d'abord d'analyser quantitativement, pas chaque catégorie, mais quelques catégories, et puis ensuite de rajouter, de regrouper les catégories, ce qui donnera un tableau un peu plus, avec plus d'effectifs. Bon, alors je propose de commencer par les récits soulignant l'apport historique du christianisme. Donc il y en a 9 en tout. Et bon, je pense qu'ici il n'y a pas vraiment de lien spécial entre les variables, sauf à gauche là du graphique, les deux colonnes de gauche. On remarque qu'il y a 5 récits issus du privé et 4 récits issus du public. Donc ça semble en fait assez ça semble pas du tout significatif, mais en fait, si on se rappelle qu'il y a en fait 8% de récits issus du privé dans l'ensemble du corpus, eh bien, en fait, plus de la moitié finalement des récits du privé faisant insistance sur l'apport historique du christianisme, c'est beaucoup. Normalement, on devrait en retrouver 0 ou 1 là, des récits du privé, et là, il y en a plus que des récits du public, alors que dans le corpus global, il y a beaucoup moins de récits issus du privé. Donc il semble y avoir une relation entre enseignement privé et insistance sur l'apport historique du christianisme. Alors je propose d'ajouter à ces récits les récits qui donnent une signification religieuse au baptême de Clovis et également les récits pro-chrétiens. Alors, on remarque que la différence publique-privée, elle reste assez présente, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation des récits issus du privé. Si on se rappelle qu'il y a seulement 8% des récits issus du privé dans le corpus global. Et puis sinon, pour les autres variables, les proportions du corpus global se retrouvent à peu près ici. Par exemple, si vous prenez la variable rurale, on voit qu'il y a 6 récits ruraux sur 18 ici. Or, dans le corpus global, il y a 25% de récits ruraux. Et donc, les proportions se retrouvent à peu près ici de la même façon que dans le corpus global. On peut également noter qu'il n'y a pas spécialement, apparemment, d'influence de l'Académie Corse, de la variable Académie Corse, puisqu'on a à peu près 11% de récits corses dans l'ensemble du corpus, et cette proportion se retrouve ici, puisque 2 sur 18, ça fait également 11% à peu près. Alors, cette influence du privé, ou peut-être plutôt de la famille des élèves qui vont dans le privé, bon, elle peut paraître, on s'y attendait un peu, mais en même temps, je trouve ça intéressant quand même de retrouver cette variable-là, de voir qu'elle est... qu'elle a apparemment une certaine influence, hein, puisque on dit souvent que finalement le public et le privé c'est pareil, maintenant que les élèves du privé sont finalement ont exactement les mêmes idées que les élèves de l'enseignement public, etc. Bon, il semble que ce ne soit pas le cas ici en ce qui concerne la religion dans la conception des élèves de l'histoire de France. Alors, maintenant, je propose de passer à des récits différents, les récits anticléricaux, et puis ensuite, je rajouterai d'autres types de récits qui me semblent pouvoir être liés à ces récits anticléricaux. Alors d'abord, on peut constater que les récits anticléricaux sont tous issus du public, il n'y en a aucun qui est issu du privé. Alors maintenant, je propose de rajouter à ces récits anticléricaux les récits qui considère la religion comme un phénomène fondamentalement passé. Donc on voit qu'il n'y a toujours pas de récit ici du privé. Et puis il y a une deuxième chose qu'on peut commencer à constater, c'est que les sources scolaires sont prépondérantes. Bon, alors là, ça, on ne peut pas dire que ça soit significatif, parce qu'on n'a vraiment pas assez d'effectifs, mais après on en aura un peu plus. Mais on voit une surreprésentation des sources scolaires, puisque dans le corpus global, on a 60% de récits ayant des sources scolaires. Ici, on voit que la proportion de 60% est largement dépassée. Donc, comme si, finalement, les récits plus ou moins laïques, hein, sécularisateurs, anticléricaux, etc., étaient plutôt de sources scolaires que de sources non scolaires. Alors, je propose de rajouter à cela les récits qui font une équivalence entre religion et clergé, et puis les récits qui considèrent la religion en négatif à travers le prisme de la laïcité et du pouvoir. Alors on peut remarquer qu'il n'y a toujours pas de récits issus du privé. Et puis la prépondérance des sources scolaires se confirme. Hein, puisque là, 24 sources scolaires contre 6 sources non scolaires, ça dépasse assez largement la proportion de 60% de sources scolaires qui caractérisent l'ensemble du corpus. Et puis, également, bon, je trouve ça intéressant parce que, oui, on peut remarquer qu'il n'y a pas du tout... la proportion de récits corses est à peu près la même, en fait, que la proportion de récits continentaux, ce qui suggère que les Corses n'ont pas... sur ce point-là, une vision différente des continentaux. Mais, bon, il y aura une différence quand même à noter sur, en ce qui concerne les récits corses. Je propose de rajouter encore à cela les récits qui considèrent le baptême de Clovis comme un acte opportuniste ou imposé, et les récits qui insistent sur l'intolérance politico-religieuse. Donc ça fait une grosse catégorie, relativement grosse, que j'appelle « religion comme phénomène strictement politique ». C'est-à-dire, voilà, les récits qui considèrent la religion comme un phénomène strictement politique, on se rend compte qu'il n'y a aucun récit issu du privé. Et là, la prépondérance des sources scolaires se confirme toujours. Par contre, pour les autres variables, il n'y a pas d'influence, apparemment. Il n'y a pas de relation. Voilà, donc je propose de dire qu'il semble y avoir... une influence de cette école laïque, républicaine, publique, sur les récits des élèves en ce qui concerne la religion, puisque ceux qui sont issus du public, les récits issus du public et ayant des sources scolaires, sont prépondérants dans ce type de récits. Voilà. Ensuite, je vais terminer. En fait, il n'y a plus que 3 diapositives. Je voulais attirer votre attention sur l'idée, la variable présence de la religion aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur cette... Oui, alors oui, en ce qui concerne la présence de la religion aujourd'hui, par contre, donc on n'a pas beaucoup d'effectifs, mais on note une prépondérance, enfin une surreprésentation des récits corses. Voilà, puisqu'ici nous avons en tout 11 récits, en tout là dans cette catégorie, et puis des récits corses, nous en avons 5, donc ça fait presque 50%. Or, dans le corpus global, on a 11% de récits corses. Donc, apparemment, il y a une surreprésentation de récits corses. Alors, on avait discuté avec Angelina pour savoir comment on pouvait expliquer ça. Et bon, on va peut-être en parler pendant la discussion. Voilà. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a aussi une prépondérance ici d'élèves qui sont nés à l'étranger ou qui parlent une langue autre que le français à la maison, puisque ça fait également presque la moitié. Voilà, je ne sais pas trop également comment expliquer ça. Et puis, une curiosité, les récits qui parlent de l'islam comme un phénomène contemporain sont tous des ruraux, ici, comme vous le voyez. Bon, c'est peut-être un hasard, hein, je pense. Peut-être pas, mais bon, c'est à creuser, peut-être. J'ai vérifié qu'il s'agit bien de 3 établissements ruraux différents. Donc il n'y a pas d'effet établissement qui joue ici. D'accord, ben, écoutez, je finis juste sur une curiosité. Ceux qui considèrent la religion au prisme de la laïcité, d'abord sont tous issus du public, et puis ont pour source de leur récit seulement des sources scolaires, pas du tout de sources non scolaires. Alors voilà, là c'est un résultat assez... surprenant, enfin peut-être on pouvait s'y attendre, mais c'est quand même assez surprenant, je trouve, ce qui pourrait confirmer le fait que voilà, à l'école publique, les enseignants, peut-être pas en cours d'histoire, mais en général, disent voilà, nous sommes dans une école laïque, il y a telle ou telle règle à respecter, nous sommes dans un pays laïque, etc., etc. Et du coup, les élèves issus du public, justement, dans leur récit, parlent beaucoup de laïcité, et du coup, tout ce qui concerne la religion est interprété au prisme de la laïcité. Voilà. Merci.